Donc on va reprendre le travail de l'après-midi sur la santé connectée. Vous en avez déjà entendu parler ce matin. Donc nous allons rentrer dans le détail grâce à nos amis de l'Université de Poitiers, Patrick Lacouture, avec lequel on a organisé déjà une journée d'études sur le sport, et Laetitia Fradet, qui nous ont aidés à mettre en place cet après-midi. Donc je les remercie infiniment. Et puis Patrick, tu as l'honneur d'être président de cette séance. Donc je te laisse présenter Laetitia.
Merci Yann. Bien, bah, tout d'abord, merci à Anne et puis à l'Espace ou en Espance en général pour l'organisation de cette journée. Donc, je me présente rapidement. Donc, je suis Patrick Lacouture. Je suis enseignant-chercheur à l'Université de Poitiers dans un secteur qui est la biomécanique, puisque j'interviens avec Laetitia sur un axe de recherche qui s'intitule Robotique, biomécanique, sport et santé. Alors, ce matin, on a eu l'occasion par à la fois nos collègues Rodolphe Vauzel et puis des collègues aussi d'autres universités de présenter ce qu'étaient les objets connectés et dans un contexte à la fois donc aussi alors, les aspects techniques de ces objets, mais aussi donc leur implication, enfin les conséquences en termes de juridiques, le fait de comment arriver à se préserver un petit peu de ces objets, puisqu'aujourd'hui, il n'est plus question d'être pour ou contre, puisque là, on est dans une avalanche d'objets qui nous entourent tous les jours. Il en disparaît tous les jours, mais il en est créé tous les jours également. Et donc, il faut vraiment se poser la question, là, plus cet après-midi, sur les aspects usage, on va dire. Et je crois que là, il y a véritablement un enjeu important, puisque de par cette quantité d'objets qui nous envahit, eh bien, est-ce qu'on doit subir un petit peu cet aspect marketing, marchandise de ces objets, ou est-ce qu'on doit être aussi un consommateur averti? Et ça, je crois que là, l'enjeu est d'importance, puisque dans notre domaine, dans notre champ qui nous intéresse, eh bien, on s'aperçoit qu'effectivement, si cet objet connecté est avant tout un capteur, donc permettant de mesurer une grandeur physique, eh bien, comment on interprète cette grandeur physique pour pouvoir eh bien, s'en servir en termes d'indicateurs de performance dans le domaine du sport ou en termes d'indicateurs donc, vis-à-vis des paramètres physiologiques de santé, etc. Donc ça, c'est quelque chose de très, très important. Et je crois qu'il faut être, comment dirais-je, attentif et alerté par, on va dire, des vendeurs un petit peu de chansons, hein, puisque on nous offre un certain nombre de possibilités, les actimétries par exemple, il y a beaucoup de gens qui utilisent, vous allez chez Decathlon, enfin, etc., les bracelets, enfin, et que sais-je, vos téléphones, et je crois que là il faut avoir ce regard-là d'analyse. Et là donc Laetitia, donc, qui est une collègue du laboratoire, va faire le pendant de cette analyse-là, mais au regard de l'aspect santé. Donc ça, c'est une première présentation. Donc malheureusement, on a une défection de M. Collin qui devait venir, mais apparemment, il est pris, il ne peut pas. Donc ça permettra à Laetitia d'augmenter un petit peu son temps de parole et nous aussi d'échanger, d'avoir plus de temps pour échanger des questions. Et puis ensuite, donc, nous aurons M. Julien Lafouillou, donc, qui est responsable sport-santé, e-santé, donc, au niveau de Harmonie Mutuelle, donc un éclairage du côté de ces mutuelles, puisque de plus en plus ces mutuelles aussi donc s'intéressent à cette e-santé dans la mesure où elles peuvent recueillir des informations de leurs adhérents et en conséquence eh bien peut-être mettre des prestations, on va dire, en accord avec le comportement, je dis entre guillemets, le comportement santé de leurs adhérents. Et enfin, je crois, il y a un aspect juridique aussi qui est vu, environnement, objet connecté et environnement, donc tout à fait à la fin de cette demi-journée. Donc voilà, je laisse la parole à Laetitia.
Donc, merci pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Donc effectivement, cette première présentation, là sur l'écran il y a marqué santé, objets connectés, et je devrais l'inverser un petit peu pour dire objets connectés et santé, puisque notre cœur de métier, comme vient de l'évoquer M. Lacouture, c'est plutôt effectivement plutôt l'objet. Mais cette première présentation va, je l'espère, aider à situer cet objet connecté dans le cadre de la santé. Donc pour un peu, en introduction, expliquer comment on et quel est le lien entre l'Université de Poitiers et cette thématique objets connectés et santé, je tenais à préciser puis à expliquer aussi certaines démarches qui étaient entreprises au sein de l'université. Donc, depuis un peu plus d'un an maintenant, il y a un pôle autonomie sport et santé qui a été créé au sein de l'Université de Poitiers. Et il y a également une autre institution, comme la chaire universitaire sport, santé, bien-être, qui en fait regroupe différentes facultés, instituts et laboratoires autour de cette thématique de l'autonomie du sport et de la santé. Et en fait, la mission de cette chaire, également de ce pôle, est d'étudier l'activité physique comme un outil de santé au service de l'autonomie des personnes et éventuellement de proposer des solutions innovantes pour favoriser cette autonomie. Et dans ce cadre-là, une des activités du pôle autonomie sport et santé est de proposer des développements méthodologiques pour les objets connectés liés au domaine de l'activité physique. Donc, je voulais également préciser un petit peu mon rôle au sein de tout ça. Donc, comme Monsieur Lacouture, j'appartiens à l'équipe robotique, biomécanique, sport et santé de l'Institut P'. Donc, l'Institut P' qui est situé sur le site du Futuroscope est en fait spécialisé dans les sciences dites pour l'ingénieur, physique des matériaux, énergétique, etc. Et dans ce cadre-là, il y a aussi une partie, donc analyse du mouvement humain. Et donc, on parle d'axe, qui s'appelle robotique, biomécanique, sport et santé, a, en fait, comme le nom l'indique, deux objets d'étude, la robotique et la biomécanique. Et dans le cadre du domaine de la santé, nos collègues de robotique ont pour spécialité et domaine d'application la conception de mécanismes innovants dans le domaine de la santé. Et nous, de notre côté, on est spécialisé en fait dans l'analyse du mouvement. Mais l'analyse du mouvement avec toute forme de matériel. Et dans ce cadre-là, on est amené à utiliser, à tester toute forme de système pour l'analyse du mouvement. D'où le lien éventuellement, et qui paraît assez évident, avec ces objets connectés qui vont essayer de détecter ou de préciser la manière dont les mouvements sont effectués. Donc si je reviens à ces objets connectés et la santé, comme vous avez pu le constater dans le quotidien, en fait, ces objets connectés, ils sont déjà partout. On peut en trouver un peu partout. Donc on connaît les fameuses montres connectées, mais on peut en trouver aussi dans nos voitures. On peut en trouver également dans nos abribus, mais également dans nos urinoirs, dans nos plantes pour prévenir quand elles ont besoin d'être arrosées, également dans nos glaçons. Donc ça, c'est une application qui est très intéressante, c'est qu'en fait, ça va prévenir quand votre verre est vide, et donc ça va automatiquement faire en sorte qu'un autre verre soit commandé. Là, évidemment, ici, il commence en fait à venir dans les ours en peluche de nos enfants, et il commence à équiper également nos animaux de compagnie. Donc les objets connectés sont partout, ils ont envahi vraiment notre quotidien. Mais déjà, qu'est-ce qu'un objet connecté? Donc la terminologie anglaise, c'est « smart devices ». Donc en fait, à la base, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un objet qui, normalement, doit remplir une certaine fonction. Et en fait, à l'intérieur, il y a souvent des capteurs qui doivent fournir une mesure. Et en fait, dans un objet connecté, cette mesure va être envoyée souvent à un processeur qui va en fait traiter cette mesure-là, qui va la travailler. Et une fois que cette donnée a été travaillée, elle va être transmise, et généralement à l'extérieur, par un moyen de communication. Et souvent, il peut y avoir un retour vers l'outil en question pour une certaine réponse de l'outil, ou alors on peut stocker l'information quelque part. Et en fait, comme je viens de vous l'expliquer, on peut observer depuis un peu plus d'un an maintenant, voire même 2-3 ans, un gros boom de ces objets connectés. Alors, qu'est-ce qui a en fait contribué déjà à la naissance de ces objets connectés? Alors, tout d'abord, en fait, il y a un élément qui est quand même très important, c'est la miniaturisation des capteurs. Donc, depuis à peu près, une bonne dizaine d'années, on peut voir, en fait, là, il s'agit d'un élément qu'on trouve dans tous vos téléphones, qu'on appelle les capteurs inertiels. Mais il y a encore 10 ans, ils étaient 3 fois plus gros pour avoir la même capacité. Donc ce qui a permis le développement de ces objets connectés, c'est la miniaturisation de ces capteurs. Mais également, en fait, les augmentations des capacités de traitement des données des processeurs, qui permet du coup de traiter un grand nombre d'informations, et sur une durée de temps assez importante. Et évidemment, d'un point de vue de la transmission, un élément qui a été prépondérant, c'est le fait qu'on soit passé d'une transmission de ces informations filaires à une version sans fil. On a également quelque chose qui est très importante, et ça c'est plutôt M. Wozel qui a présenté ce matin, qui serait à même d'en parler, c'est une augmentation des capacités de transmission, et donc le développement aussi de protocoles de transmission et de réception de ces informations entre les différents systèmes. Et évidemment, un élément qui a été aussi prépondérant dans ce développement des objets connectés, c'est la modification du récepteur vers lequel transmettre ces informations-là. Donc en fait, on est passé d'un téléphone portable qui n'avait de portable que presque que le nom, vers des montres ou des objets qui pouvaient capter ces informations-là. Alors si on fait un point sur les objets connectés qui sont vendus au quotidien en France, on s'aperçoit en fait que c'est principalement encore des montres intelligentes ou alors sous une forme un petit peu différente, ce sont les fameuses montres intelligentes qui permet, d'après ce qu'elles annoncent, d'avoir une idée de l'activité physique que vous avez effectuée. Et on a également, dans cet ordre d'idée-là, des bracelets, mais qui du coup ne donnent même pas l'heure, et qui en fait permettent aussi d'avoir une idée de l'activité physique que vous avez effectuée. On a également un gros boom des drones de loisirs, et on a également le 20 000 thermostats connectés qui ont été vendus en 2014. Et certaines estimations prédisent qu'on aurait de 80 à 100 milliards d'objets connectés en 2020 dans le monde. On en aurait 5 milliards en France. Alors comment on peut expliquer ce boom au-delà de l'aspect technologique ? Donc je vous disais à l'instant, il y a l'histoire de miniaturisation des capteurs, de l'autonomie des capteurs. Mais évidemment, quelque chose qui a été aussi très important, c'est la diminution des coûts. Comme il y a une production de masse de ces différents capteurs, ça permet de réduire le coût et donc de réduire le coût des objets connectés. Mais comme il y a aussi une démocratisation des smartphones, des outils électroniques et technologiques, cela favorisait la propagation de ces outils-là, en familiarisant les personnes avec des aspects et des outils technologiques. Puis il faut bien admettre qu'il y a quand même un fort phénomène de mode avec le marketing et puis un nombre de start-up assez impressionnant qui proposent à chaque fois de nouveaux types d'objets connectés. Alors, si on s'intéresse en particulier aux objets connectés de santé, en France, en 2014 toujours, il y a eu 50 000 produits de santé qui ont été vendus. Il s'agit principalement de balances, de tensiomètres, de brosses à dents. Et à ce jour, a priori, 22% des Français posséderaient des objets connectés de santé. Et là encore, il y a une estimation du marché et du développement de ces objets connectés de santé qui, on ne dit pas exponentiel dans ce cas-là, mais qui paraît très important, puisqu'ici, il y a une estimation qui serait de l'ordre de 50% de l'augmentation du développement et de l'achat de ces objets connectés de santé. Seulement, même si on prévoit un boom dans les années à venir, il y a quand même certaines personnes qui disent qu'il faut quand même, d'ici 3-4 ans, voir comment ce marché évolue, parce qu'il y a de fortes chances qu'il se tasse un peu et qu'il y ait beaucoup de ces objets connectés-là qui, quelque part, passent à la trappe. Voilà. Alors, ces objets connectés de santé, comment on peut, quelque part, les définir ? Donc, en fait, on peut les définir en fonction du type de paramètre qui est mesuré. Donc, certains d'entre eux vont mesurer des paramètres physiologiques. On parlait de température, des choses comme ça. Alors que d'autres vont plutôt être des objets connectés de santé qui vont évaluer, ou essayer de caractériser la motricité. On parlait d'activité physique tout à l'heure. Et en fait, il va y en avoir d'autres qui vont être créés, mais ils vont souvent être liés ou permettre en fait d'aider au suivi du traitement. Et dans leur mode de fonctionnement, donc pour nous, d'un point de vue technologique, on a deux modes de fonctionnement qui sont très différents. Un qui va être en continu, donc l'objet va mesurer continuellement une information, alors que l'autre, on va l'utiliser de manière plus ponctuelle. Quant à la conception de ces objets connectés de santé, donc, il y a une forte proportion de ces objets-là qui sont proposés par le milieu industriel, mais beaucoup naissent aussi en fait, de la recherche scientifique et de projets collaboratifs. Et il faut noter qu'il y a qu'il y a eu des programmes de recherche qui ont fortement incité justement au développement de ce type d'objets connectés. On peut noter par exemple AAL pour l'autonomie des personnes âgées. Alors là, je ne vais pas vous faire un catalogue exhaustif de ces objets connectés de santé, mais je vais en présenter quelques-uns pour vous montrer un petit peu les applications possibles et le type d'objet qu'il est possible et aussi l'idée qu'il y a un petit peu derrière l'utilisation de ces objets-là. Donc en fait, ces objets connectés de santé, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'ils peuvent intervenir à tous les niveaux de prise en charge de la santé. Donc en prévention, en détection, en traitement, mais également en management de la maladie. Donc en ce qui concerne la prévention et la détection, on va avoir là aussi énormément d'outils différents qui vont être proposés et mis au point. Donc là, je vous en donne quelques-uns pour d'objets qui se basent plutôt sur des paramètres physiologiques. Donc l'objectif de certains de ces objets-là sont essayer de détecter des personnes qui pourraient être à risque. Donc généralement, il s'agit d'objets du quotidien qu'on posséderait au-delà de cette fonction-là, mais qui sont quelque part augmentés parce qu'on leur ajoute une capacité supplémentaire qui est censée donner une alerte. Et on va avoir aussi toute une gamme de dispositifs mobiles qu'on va porter sur nous et qui va du coup avoir un but un petit peu différent. Donc concernant les personnes à risque, là on peut noter en fait, vous avez quelque chose d'assez récent, donc une barboteuse qui est équipée de différents capteurs et qui va surveiller les mouvements et les rythmes cardiaques du bébé. Et donc il va alerter les parents si jamais il y a une anomalie au cours du sommeil. On peut noter aussi la création donc, d'un soutien-gorge qui est aussi équipé de beaucoup de capteurs et qui en fait aiderait à détecter de manière un peu plus précoce les cancers du sein. Vous avez un dispositif très intéressant aussi là-bas, mais ce sont des couches qui vont être équipées de capteurs et qui vont analyser plus ou moins en direct les urines, donc à la fois des bébés mais également des personnes âgées, pour essayer de détecter évidemment des situations ou des paramètres physiologiques qui seraient marqueurs de problèmes. En ce qui concerne la motricité, on a là aussi quelque part deux philosophies. Soit détourner des objets du quotidien en leur permettant d'avoir une mesure supplémentaire que ce qu'ils feraient d'habitude, ou alors de demander aux personnes de porter des capteurs qui permettraient d'obtenir certaines informations. Alors par rapport à ça, je tenais à souligner le travail de nos collègues de Troyes qui ont été, à ma connaissance, dans les premiers à essayer de détourner des objets qui sont dans notre quotidien pour avoir ces informations sur la motricité des personnes. Donc par exemple, ici, vous avez une balance qui paraît relativement banale, sauf que contrairement à d'habitude, elle est équipée de 4 capteurs. Et en fait, ces capteurs-là permettent de détecter au moment où vous avez monté sur la balance l'équilibre, vos capacités d'équilibre. Et donc elle est utilisée pour essayer de détecter les personnes âgées dites fragiles, donc qui commencent à avoir des difficultés à maintenir leur équilibre. Dans la même gamme d'idées, ils ont proposé aussi d'équiper des pots de fleurs de capteurs permettant de mesurer la vitesse de marche. Et donc cette mesure de vitesse de marche au quotidien permettrait d'avoir une idée de la dégradation de cette vitesse, et donc là aussi de pouvoir détecter des personnes en situation de fragilité. Et enfin, nous avons tout un tas de dispositifs de suivi de locomotion. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'essayer de caractériser la manière dont les personnes, par exemple ici, vont s'asseoir, vont se lever ou vont marcher, pour voir là aussi éventuellement une dégradation de ces capacités-là. Donc là, généralement, ces dispositifs sont plus à destination des personnes âgées ou de personnes atteintes de pathologies chroniques. Il faut également citer une approche un peu particulière, toujours par rapport aux personnes âgées, c'est la détection de chute. Donc là aussi, on a différentes approches qui consistent à, encore une fois, à détourner des objets du quotidien. Donc là, il s'agit en fait d'un sol qui va être équipé de capteurs et qui va tout simplement identifier quand une personne va rester sur le sol pendant une durée trop importante. Et donc, elle va donner là aussi une alerte. Après, il y a d'autres dispositifs donc, qui sont pour nous un peu plus connus, avec des semelles embarquées ou des capteurs qui vont être utilisés pour essayer de détecter ces fameuses chutes. En ce qui concerne le traitement de la maladie proprement dit, donc là aussi, vous avez tout un tas de dispositifs qui sont proposés pour essayer de faciliter le monitoring des paramètres physiologiques. Donc là, par exemple, vous avez un capteur qui permettent en fait d'avoir une mesure en continu des paramètres cardiaques d'un patient spécialement dédié aux personnes atteintes d'insuffisance cardiaque chronique, donc qui permet un suivi au quotidien de ces personnes-là. Et après, vous avez tout un tas aussi de dispositifs qui permettent d'avoir assez rapidement un suivi des paramètres physiologiques. Donc là, il s'agit d'une petite sonde qu'on vient appliquer sur le crâne. De la même manière, pour le suivi de la motricité, vous avez toute une gamme de capteurs qui sont proposés pour essayer de justement détecter des anomalies dans cette capacité à effectuer votre activité physique. Donc il y a différentes approches là aussi. Vous pouvez avoir en fait tout un réseau de capteurs comme évoqué ici. Vous allez avoir dans votre maison différents appareils qui vont être connectés entre eux et qui vont en fait relier entre eux, donner une idée de votre capacité globale à évoluer dans votre maison par exemple. Et après vous avez des choses un peu plus classiques comme le téléphone qui va être équipé d'un logiciel un peu particulier et qui va donner en fait les mouvements que vous avez effectués dans votre journée. En termes de rééducation et de suivi aussi de ces différentes pathologies, pour ce qui concerne les problématiques de motricité, on a vu aussi le développement d'interfaces, donc qui sont liées aussi à des objets connectés, pour faciliter cette rééducation à domicile. Donc là, vous avez différents systèmes qui sont proposés, donc là aussi équipés de capteurs, qui permettent de faciliter l'entraînement. Donc la rééducation de certains membres, donc là ici il s'agit du genou, là il s'agit de l'épaule, et qui serait fait à domicile et uniquement par le patient. Et vous avez également tout un tas de ce qu'on appelle les serious games, donc des jeux sérieux, qui sont en fait des Wii qui sont spécialement dédiés pour la rééducation. Il s'agit en fait souvent d'un logiciel qui vous demande d'effectuer des exercices spécifiques en fonction de votre pathologie. Et là encore, vous allez avoir différents capteurs qui va donner un retour au logiciel qui va vous permettre en fait de vous corriger en fonction de ce qui a été demandé de faire. Et plus récemment, on a vu l'apparition de petits robots connectés qui, là aussi, servent de support à la rééducation. Donc là, ces robots-là sont assez intéressants aussi parce que non seulement ils miment le mouvement que les personnes sont censées effectuer, mais en plus, ils sont équipés de caméras qui vont en fait détecter le mouvement que la personne a fait en face et éventuellement lui demander de le refaire ou la corriger si le mouvement n'a pas été effectué comme il faut. En termes de gestion de la pathologie proprement dite, là encore, il y a énormément de propositions qui sont faites pour aider les personnes atteintes de pathologie à maîtriser ou à gérer leur maladie. Donc là, assez récemment, on a vu l'apparition d'appareils pour le suivi de prise d'insuline, et notamment la fameuse lentille Google, qui en fait propose d'analyser vos larmes et de mesurer l'insuline qui serait dans vos larmes. Évidemment, si le taux d'insuline est trop faible, une alarme est envoyée. Et après, vous avez aussi, donc ça c'est assez récent aussi, une pilule que vous ingérez et qui en fait vous permet de savoir si vous avez pris ou pas vos médicaments. Voilà. Donc vous voyez qu'en termes de propositions d'objets connectés liés à la santé, il y a énormément de choses qui ont été faites. Mais quelle est la réelle part de ces objets connectés dans le cadre de la santé? Donc en fait, compte tenu de leur mode de fonctionnement, ces objets connectés participent quelque part à la numérisation de la santé. C'est une volonté de parvenir à cette numérisation de la santé, même si elle n'est pas encore complètement effective, pour plusieurs raisons, parce qu'elle permettrait d'améliorer l'accès aux soins, en particulier dans des territoires où on parle de désertification médicale, mais également d'améliorer la qualité des prises en charge, dans certains cas d'améliorer l'autonomie des patients, et en particulier d'améliorer et de faciliter la prise en charge du flux croissant de patients atteints de maladies chroniques. Donc on sait que c'est une situation auquel on doit faire face avec le vieillissement de la population, le changement de mode de vie, des personnes atteintes de diabète, d'obésité, etc. Et donc de plus en plus de maladies chroniques existent. Et donc ces patients, au quotidien, il faut les aider à prendre en charge leur pathologie. Mais si on fait un bilan de ces objets connectés qui sont actuellement diffusés sur le marché, donc les premiers que j'ai évoqués, quels sont ces objets qui sont pour l'instant utilisés? En fait, il s'agit principalement d'objets qui sont donc en vente libre et qui servent de ce qu'on appelle auto-évaluation. Donc en fait, on se mesure tout seul. Donc là, se posent plusieurs questions, parce qu'on peut les acheter, on peut en faire ce qu'on veut. Donc on n'a quelque part aucun cadre d'utilisation de ces différents systèmes. Donc évidemment, à partir de là, se posent différentes questions sur notamment la fiabilité des capteurs. Quand nous, on évoque la notion de fiabilité des capteurs, c'est la précision de l'information qui est fournie par ces capteurs. Ensuite, une question se pose sur la capacité des usagers à interpréter les données qui sont fournies. Et puis, évidemment, donc ça, c'est quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises ces derniers mois, sur l'exploitation de ces données de santé. Parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte, mais les données qu'on va mesurer dans notre maison vont être transférées sur un serveur qui peut être exploité par, au mieux, la compagnie qui a mis au point le système, au pire, par quelqu'un qui va récupérer les données. Et en fait, d'après la CNIL, le prix des données de santé vient de dépasser celle concernant les informations bancaires sur un marché noir de la donnée. Donc, je ne savais pas que ça existait, mais bon, a priori si. Et donc, l'autre information aussi qui est pour l'instant assez regrettable, c'est que la plupart des données qui sont mesurées par ces objets-là ne sont pas connues par les professionnels de santé. Donc, en fait, on se mesure tout seul et notre médecin n'est pas forcément au courant des résultats de ces mesures. Et si on pose la question aux utilisateurs sur les freins pour le développement de solutions liées à ces objets de santé connectés, en fait, là-dessus, on peut être relativement satisfait parce qu'eux-mêmes se posent des questions sur la fiabilité des mesures. Donc, ça veut dire que quelque part, ils ont eux-mêmes un petit peu conscience de cette problématique liée sur l'information qui est fournie. Bon, mais il y a également le prix de ces objets connectés qui n'est quand même pas toujours anodin. Et donc, il y a une impression aussi d'intrusion dans le quotidien du fait de ces mesures parfois intempestives et de tout type d'informations. Et là aussi, une certaine méfiance quant à l'utilisation potentielle de ces fameuses données. Et dans certains cas, il est évoqué aussi la peur de ne pas savoir se servir de l'appareil. Et dans certains cas, donc, ça existe quand même, et c'est dans le questionnaire qui a été évoqué ici, il y a également la peur d'une certaine dépendance à ces objets. Donc là, j'ai trouvé ça un peu plus surprenant, mais voilà, c'est quelque chose qui a été évoqué à plusieurs reprises. Donc, quels sont les challenges pour l'incorporation de ces objets de santé dans le domaine de la santé, mais de manière un peu plus, on va dire, formalisée, et en particulier pour le domaine de la e-santé? Se pose une question, en fait, sur justement la création de ce dossier médicalisé électronique des patients. Donc c'est quelque chose qui doit être effectué. Mais en fait, il faudrait que ce dossier-là puisse pouvoir incorporer ces données-là. En gros, que les données que vous puissiez mesurer chez vous puissent être envoyées au médecin. Et donc là, il y a beaucoup de questions qui se posent sur quel type de données, la standardisation des protocoles, le format des données, etc. Donc des questions beaucoup plus techniques. Ensuite, il faut mettre en place des réseaux d'échange de données. Or, généralement, dans les structures hospitalières, les réseaux sont souvent clos. Donc, il faudrait que des données viennent de l'extérieur, mais généralement, pour justement éviter les piratages et les pertes d'informations, c'est souvent complètement fermé dans les structures hospitalières. Donc, comment faire face à ces deux problématiques? Donc, comme je viens de l'évoquer, il faudrait trouver un moyen quand même de sécuriser ces données de santé, puisque comme on l'a vu à plusieurs reprises, en fait, tout réseau peut être piraté. Une question qui se pose aussi par rapport à l'utilisation et au développement de ces objets connectés dans le domaine de e-santé, d'un modèle économique. Est-ce que ces objets connectés qui pourraient être plus intéressants pour le médecin doivent être remboursés ou pas? Donc des questions de ce type-là se posent. Et d'autres questions qui ont été aussi évoquées ces derniers temps, sur la propriété des données. Donc en fait, à qui appartiennent ces données et comment essayer de les protéger? Donc on a entendu il y a quelques semaines que certaines mutuelles en fait évoquaient la possibilité de moduler leur offre en fonction de données recueillies par le patient. Donc il s'agissait d'activité physique. En tout cas, d'une manière générale, les usagers semblent prêts à utiliser ces objets connectés dans le domaine de la santé, puisque à peu près 80% d'entre eux envisagent d'utiliser ces capteurs à court terme. Dans le domaine, si on se place du point de vue des médecins, donc là, un sondage a été réalisé auprès de jeunes médecins et de jeunes pharmaciens, on voit que ce n'est pas encore autant développé que pour les usagers, mais ils sont prêts à commencer à incorporer ces objets connectés dans leur pratique. Mais donc on a évoqué ces objets connectés, on a évoqué leur intégration dans le système de santé, mais quels bénéfices peut-on réellement atteindre de l'utilisation et du développement de ces objets connectés dans le domaine de la santé ? Alors là, il s'agit en fait de bénéfices potentiels évoqués par la Commission européenne. Donc, il voit un intérêt au développement de l'utilisation de ces objets connectés dans le domaine de la santé pour, quelque part, familiariser ou essayer de contribuer à la prévention, à l'éducation à la santé et à la qualité de vie des usagers, en donnant des informations sur, bah, tiens, le nombre de minutes d'activité, par exemple, physique qu'une personne devrait faire dans la journée, en disant, bah, vous êtes un petit peu en dessous. Donc, quelque part, un peu familiariser et favoriser une certaine qualité de vie des usagers. Ils envisagent et souhaiteraient une amélioration des systèmes de santé en faisant quelque chose de plus efficace, de plus durable et, comme on l'a évoqué à plusieurs reprises, mieux réparti éventuellement sur le territoire. Et une autre chose, ben, c'est d'essayer de rendre les patients plus responsables de leur maladie. Mais évidemment, pour l'instant, ces bénéfices-là n'ont pas été étayés par des preuves scientifiques. Il y a des études qui sont en cours, mais pour l'instant, il faut qu'elles soient confirmées sur du plus long terme, puisqu'elles sont vraiment très récentes. Donc là, pour terminer, ben, je voulais juste évoquer, quelque part, pas nos difficultés, mais les questions que l'on se posait lorsque nous, nous scientifiques, on essayait de contribuer à la conception de ces objets connectés. Donc, pour nous, quelles sont les difficultés que l'on a, ou quelque part les choix que l'on est amené à faire. Donc souvent, ben, on a plein de possibilités de capteurs, et puis il va falloir en sélectionner un. Mais souvent, nous, celui qu'on voudrait, c'est celui qui est le plus fiable, le plus précis. Mais il faut aussi qu'il ne soit pas trop encombrant, parce que s'il est encombrant, les gens ne vont pas le porter. Donc il faut qu'il ne soit pas trop encombrant. Et évidemment, pour qu'il puisse se diffuser, il ne faut pas qu'il soit trop cher. Donc forcément, il va y avoir un compromis qui va devoir être fait, et le compromis est parfois difficile à trouver. Ensuite, une question pour nous qui se pose souvent, et en particulier quand on va mesurer des données sur un temps très long, c'est quel paramètre extraire de la mesure. Donc par exemple, on va voir quelqu'un qui va porter un capteur toute la journée sur lui, mais à quel moment et qu'est-ce que je vais extraire de cette mesure-là, et éventuellement à quel moment je vais donner l'alerte. Donc là, il s'agit de traitement du signal, mais c'est des choses qui sont assez compliquées parce qu'on se retrouve avec maintenant des quantités de données. Donc comment extraire ce qui a un sens de ce flot continu de données. Et en particulier dans notre cas, on s'intéresse à la qualité de la marche, puisqu'on est plutôt sur la locomotion. Et donc comment caractériser la locomotion humaine en continu alors qu'il existe un contexte de réalisation très, très différent. Donc si vous êtes dans des escaliers, si vous allez être en pente, en ville, au milieu d'une foule, vous allez forcément ne pas marcher de la même manière. Et comment on va pouvoir mettre en évidence que votre locomotion éventuellement s'est dégradée alors que le contexte dans lequel vous allez faire votre locomotion va être très différent et donc agir forcément sur la manière dont vous allez marcher. Ensuite, il y a une confrontation souvent ardue entre nous, scientifiques, et le milieu médical, parce que nous, on voudrait mettre plein d'informations, on voudrait donner plein d'informations en disant que ben, chacune d'entre elles a un sens et chacune d'entre elles aide à comprendre ce qui se passe. Mais souvent, le milieu médical veut un critère qui dise ça va mieux ou ça va moins bien. Alors que nous, on veut dire oui, ça va mieux ou ça va moins bien, mais côté pied gauche, côté pied droit, genou gauche, etc. Donc il faut trouver un compromis entre ben, le niveau d'information qu'il faut que l'on transmette pour que en fait, l'objet ne soit pas abandonné par l'utilisateur. Puis une autre question qui se pose aussi souvent, c'est qu'en fait, nous, on voudrait trouver non pas une solution, mais la solution. Donc, quelle distinction on apporte entre les deux ? C'est qu'on a une grande variété de pathologies. On a une grande variété de maladies différentes. Donc, on ne voudrait pas créer un objet qui va fonctionner pour uniquement cette pathologie-là ou ce type de personne-là. Mais on voudrait en fait quelque chose qui puisse être presque, en exagérant, universel. Donc, ce n'est pas toujours évident à mettre au point. Voilà. Donc, en conclusion de cette partie de conception, pour nous, ce qui est important, c'est surtout que les objets connectés doivent se faire pour et avec les usagers, pour bien comprendre quelles sont les intentes, mais également et prendre en compte leur avis sur les utilisations, et que ce soit le patient ou le milieu médical. Je vous remercie.
On a un petit peu de temps pour des questions. Oui.
Moi, j'avais deux questions, mais je vais commencer par celle qui me semble le plus important, et puis on verra si à la fin s'il y a de quoi faire. Du coup, là, en fait, on parle de mesure continuelle de soi. Est-ce qu'il y a un jour où on va se dire peut-être que cette mesure continuelle de soi, en tant que telle, modifie nos comportements, peut être anxiogène? Est-ce qu'il y a un jour où on s'arrête? Est-ce qu'un jour on fait un moratoire? Est-ce qu'un jour est-ce qu'on se pose? Et juste pour exemple de ça, en fait, il y avait, je crois que c'était l'année dernière lors du forum, il y avait eu l'exposition Unlike qui avait eu lieu. Et dans Unlike, il y avait tout simplement une présentation de Facebook sans les chiffres. C'était très intéressant. C'était super apaisé. Et du coup, les chiffres peuvent être anxiogènes. Et les chiffres trop présents dans la vie peuvent être anxiogènes. Et du coup, voilà, c'est mettre en perspective, est-ce que le bénéfice de se mesurer continuellement et d'avoir du coup un flux continu peut ne pas être que contrebalancé par l'anxiété faite, enfin, même inconsciente, qui vient de on est observé, on est mesuré, alors que peut-être que du ponctuel, du coup, n'aurait pas ce problème-là et pourrait avoir le.
Alors, ben merci pour cette question et je comprends tout à fait ce à quoi vous faites allusion. Après, là, quelque part, j'allais dire, ça ne remet pas forcément en cause la nature de l'objet, mais plus la manière dont le résultat va être transmis. Et donc, c'est exactement ce que vous venez de dire. Enfin, non, pas tout à fait, parce que vous venez de dire que, quelque part, il faudrait qu'on mesure éventuellement ponctuellement, plutôt qu'en continu. Or, pour, par exemple, un insuffisant cardiaque, il vaut mieux qu'il soit mesuré en continu, parce que, enfin bref. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fait qu'on détecte au moment précis où ça se passe le problème qui se passe. Mais quelque part, c'est quel est éventuellement le besoin de transmettre en continu les résultats. Donc là, c'est plus dans un rendu de ces résultats-là qu'on peut effectivement faire en sorte de ne pas encombrer les personnes d'un flot continu de données, mais plutôt simplement d'alerter uniquement quand il y a des situations qui éventuellement pourraient poser problème. Mais oui, on n'a pas forcément besoin de connaître notre poids tous les matins. Mais voilà, si jamais à un moment donné, il y a une tendance qui pourrait être, dans certaines populations, trop néfaste, alerter quand c'est nécessaire. Là-dessus, on est tout à fait d'accord. Mais quelque part, voilà, c'est plus dans la transmission de l'information plutôt que dans le est-ce qu'on mesure ou pas continuellement. Mais alors, là où l'exemple que je vous ai donné, c'est une maladie chronique. Après, nous, au quotidien, est-ce qu'on a besoin systématiquement de se mesurer quand on semble relativement bien portant? Là, j'allais dire que ça dépend de la nature de la personne. Une personne anxiogène, est-ce qu'elle va être plus est-ce que c'est la cause, la conséquence? Voilà, c'est toujours un peu compliqué de savoir. Voilà.
Merci. Donc, une des difficultés avec, parce que vous parlez effectivement de mesure, aujourd'hui, on est de plus en plus, la mesure, c'est bien, mais il faut même mesurer la mesure. Donc, avec la métrologie.
C'est ça.
Vous prenez l'exemple, effectivement, de suivre un insuffisant cardiaque pour s'assurer, le moment où son palpitant s'emballe, qu'on puisse immédiatement envoyer les secours. Responsabilité de qui si la mesure n'est pas bonne et donc on décède malheureusement, enfin, en tout cas, on fait un infarct. Voilà. Donc là, on en arrive un petit peu aux limites de l'objet, enfin, de. Jusqu'où l'objet peut aller en termes d'assurance qu'on interviendra.
Là, quelque part, c'est à peu près la même réponse que je pourrais faire, c'est à qui ou comment on transmet l'alerte. Donc effectivement, si dès quelque chose va mal, on alerte les secours, se peut se poser la question des fausses mesures. Après, c'est peut-être alerter tout de suite un proche, ou quelqu'un qui est dans les environs pour vérifier et après alerter les dangers. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelque part un contrôle à faire sur ces natures-là. Après, vous parliez de l'insuffisant cardiaque. Moi, je sais qu'il y a des applications qui sont faites en télémédecine où ils ont des objets connectés, ils ont des prises de mesures à faire quasiment tous les jours pour avoir un suivi éventuellement de la création d'œdème, etc. Et en fait, dans ces cas-là, c'est une mesure continue. Donc quand il y a des paramètres qui semblent anormaux, là, du coup, ils téléphonent au patient pour dire « Excusez-moi, est-ce que vous confirmez la mesure qui a été notée ce matin ?» Donc voilà, il y a ce système-là d'aller-retour, de vérification de données. Mais évidemment, dans le cas d'une personne qui est censée être... Là, maintenant, il est effectivement plus compliqué de savoir comment ça se passe. Après, la question, c'est est-ce que c'est grave ou pas de venir alors qu'il n'y a rien? Si ça arrive très souvent, ça risque de poser un problème. Si ça arrive de temps en temps, c'est pas très grave. J'allais dire que c'est un peu comme les personnes âgées qui sont alertées avec des systèmes de de surveillance, on va dire. Ça arrive que des personnes viennent pour rien. Après, les compagnies, malgré tout, conservent le même système et préfèrent venir. Et il y a suffisamment de fois où ils interviennent de manière non erronée pour que le système perdure. Donc voilà, je suis d'accord avec vous.
Le problème, c'est si la mesure est trop faible et que personne n'intervient alors qu'il...
Ah oui, pardon. Ah ben là vous... Enfin, poursuivant en justice le... Ben, là, c'est... Oui, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et là, malheureusement, sur ce type de problématique, c'est comme si vous passez, vous allez au CHU ou vous passez un examen et puis qu'on passe à côté de quelque chose. Après, je ne sais pas, dans ces cas-là, de qui est la responsabilité. Là, j'admets. Mais effectivement, ça pose problème.
Moi, j'avais une question basique. Si les objets de mesure changent, les médecins doivent changer ?
Oui et non, dans le sens où, quelque part, comme nous tous, ils changent naturellement. Donc, eux aussi ont des objets connectés à la maison, eux aussi ont eu des évolutions technologiques, donc ils sont aussi familiarisés avec l'utilisation de ces outils-là. Donc après, c'est plus la question de comment réussir à les incorporer dans leur... et donc c'est pour ça que ça aurait été bien que monsieur soit là, pour expliquer comment faire en sorte d'intégrer directement ou pas la mesure de ces objets connectés. Mais ils sont familiarisés, donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, c'est comment faire pour l'intégrer ou pas dans leur quotidien, en fait.
Mais est-ce que, moi, j'écoutais pas mal d'émissions là-dessus pour préparer la journée, est-ce que le médecin, est-ce que le fait, justement, que les gens soient connectés, est-ce que le rapport au médecin va changer ? C'est peut-être une question sociale. Est-ce que le rapport va changer ? Est-ce que le médecin, on dit déjà que le médecin, il passe tant de temps avec son patient, etc., qu'il ne faut pas qu'il passe trop de temps parce que ce n'est pas rentable. Donc le médecin devant son ordinateur, est-ce que ça va être un nouveau médecin ? C'est un médecin connecté, hyper connecté.
Normalement, il n'y aurait pas de raison, a priori, pour que la relation médecin-patient change. Après, qu'il y ait des données complémentaires qui viennent l'aider ou pas dans la gestion du patient, pourquoi pas, mais pourquoi il n'y aurait plus d'interface ou autre. Après, c'est pourquoi vouloir remplacer cette nature-là, ou plutôt compléter des manques, plutôt que de vouloir remplacer quelque chose. Après, c'est aux médecins de décider, c'est pas moi de leur dire quoi faire.
Oui, ça fait partie des craintes des personnes justement qui travaillent sur ces sujets-là aussi.
Oui, mais après, c'est aux médecins de se l'approprier. Donc,
Attendez,
c'est que je voulais juste réagir par rapport à ce que vous disiez. Il y a des régions françaises de désert médical, qui nécessitent. Où ce genre d'objet connecté est très privilégié, où des expérimentations sont montées. Et aujourd'hui, on voit que... Voilà, moi, je travaille sur un projet de ce genre où les médecins sont très demandeurs parce qu'ils ont soi-disant... Bon, je ne vais pas vérifier l'information, parce que j'arrive juste sur le projet avec un peu de retard, mais soi-disant 6000 patients à gérer, ce qui me paraît énorme. Et donc, l'idée, c'est de les connecter à des objets qui surveilleraient leur tension, en l'occurrence, et puis... Bon, voilà. Et effectivement, le problème, c'est qu'ils ne veulent pas rester derrière leur ordinateur à surveiller en permanence, être envahi de... Voilà. Donc, il faut une interface. Voilà. Donc, l'interface... nous, on va se servir d'interface. Dans un premier temps, on va voir. Enfin, bref. Mais c'est vrai que c'est important. Et c'est vrai que ça va aider... dans certains cas, ça va changer la relation avec le patient, certes. Mais ça va rassurer le patient aussi, je pense. Parce que... ces milieux, dans ces déserts médicaux, souvent, c'est des personnes âgées qui ne peuvent pas se déplacer facilement. Et donc, je pense que ça aura un intérêt. Enfin, j'espère que ça ne sera pas biaisé. Voilà, que l'intention de base qui est saine sera conservée.
Mais c'est comme toute nouvelle technologie. Il faut que ça soit fait en complément et pas à la place de... Voilà. Après,
bon, j'ai une question vraiment naïve, mais le fait d'avoir comme ça des capteurs en permanence sur le corps...
mais ça véhicule des ondes. Est-ce que ça ne va pas se retourner en voulant faire de la prévention ou soigner? Est-ce que ça ne va pas avoir des effets également négatifs?
C'est une très bonne question. Et après, ça dépend aussi du type de capteur. Parce que quelque part, l'émission vers le transmetteur ou le réceptacle n'est pas obligée d'être en continu. En fait, on peut très bien avoir un capteur sur soi qui va mesurer en continu. Et là, dans ce cas-là, il n'émet pas d'onde. Et après, le soir, une fois que vous allez vous coucher, vous posez votre capteur. Et une fois que le capteur est posé, il va transmettre les informations à qui de droit. Donc voilà, on peut avoir différentes natures de capteurs. Donc là-dessus, on peut... Parce qu'effectivement, cette question-là se pose, même s'il y a des modifications. Donc là, c'est pareil, hein, j'ai des collègues qui sont mieux placés que moi pour parler des types d'ondes, etc. Mais pour certains objets, on a cette possibilité-là. Après, il ne faut pas oublier quand même que malheureusement, on a quasiment tous notre portable continuellement sur nous. Alors par contre, là où je vous rejoins, c'est que, et quelque part on revient à ce que vous disiez, donc peut-être pas en continu la transmission, mais de manière ponctuelle. Voilà.
Rodolphe.
Oui.
Oui, merci.
Rodolphe qui travaille dans ce domaine de transmission.
Bon, je vais faire un soupçon de réponse sur ce sujet qui est vraiment effectivement délicat. Bon, je suis intervenu ce matin sur justement le côté transmission de données, Internet des objets, de façon un petit peu générale. Je pense que Laetitia a déjà donné un élément de réponse. Quand on regarde le niveau d'exposition aux ondes avec nos smartphones et avec nos Wi-Fi, tout ce que l'on a chez soi, tout ça rayonne largement plus que les petits objets dont on va parler qui sont destinés à avoir des portées extrêmement courtes. Voilà, donc rayonner peu. Ceci dit, il y a effectivement des enjeux et des techniques qui permettent encore de limiter ces aspects-là. Voilà, mais il faut penser en relatif.
Mais par contre, on sait aussi qu'il y a des endroits qui peuvent être plus, on va dire, néfastes. Donc on parle éventuellement de l'oreille ou cette proximité à la tête. Donc effectivement, si éventuellement on pouvait avoir les capteurs un peu plus bas, voilà, ce serait peut-être pas plus mal.
Mais je voudrais savoir qui va déterminer si on doit mettre un capteur ou pas. Parce que moi, j'ai des amis qui sont anxiogènes, qui sont toutes les semaines chez les docteurs, qu'elles n'ont rien en fait. Donc qui va déterminer? Est-ce que le médecin va dire oui, vous le mettez, ou non, vous le mettez pas, ou vous le mettez, mais moi, je peux pas répondre à vos demandes. Et j'ai plusieurs amis, surtout arrivés à un certain âge, elles sont toutes les semaines chez le docteur. Et elles en font même plusieurs pour voir si c'est bien bon. Donc je pense qu'il est important de savoir si le médecin va dire oui, vous mettez. Là, je vous prendrai en charge ou je ne vous prends pas.
Alors là, quelque part, ça peut. Enfin, la gestion, j'allais dire, de ce cas-là peut se faire pour deux raisons. Quelque part, si ça rassure vos amis de porter un capteur, ça peut être un effet placebo très bon. Là, je dis n'importe quoi. Mais après, qui décide? Je ne suis pas sûre que juridiquement, un médecin puisse vous obliger à porter quelque chose à partir du moment. Si ça n'agit pas directement sur votre santé. Là, après, s'il s'agit de droit, je ne peux pas non plus m'engager là-dessus. Mais voilà. Après, on vous conseille, par exemple, à vous dire, justement, vous êtes diabétique, on va vous conseiller de prendre l'insuline, mais si vous ne voulez pas le faire...
Ce que voulait dire madame, justement, c'est que les personnes achètent sans l'accord d'un médecin.
Ah, excusez-moi, je n'ai pas compris. Ouais, mais malheureusement, c'est comme... Mais c'est comme pour tout, hein. On peut être anxiogène pour plein de choses et acheter plein de trucs.
Ce que je pense, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, dans mon entourage, arrivées à un certain âge, je vous dis, elles auront les moyens de d'acheter les trucs, et donc ça encombre le récepteur du docteur, et il ne peut pas répondre à toutes ces informations.
Là, à l'heure actuelle, sauf erreur de ma part, les données ne sont pas transférées au médecin. D'accord. Donc là, en termes d'auto-mesure, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais par contre, après, s'il s'agit d'appareils qui sont après, dont les données vont être transférées au médecin, là, c'est le médecin, quelque part, qui va conseiller. Et le médecin, a priori, oui, c'est comme si vous disiez, tous les jours, je vais donner ma tension au médecin. Peut-être qu'à un moment donné, il va dire, non, j'ai pas envie de vous prendre un rendez-vous. Enfin, je sais, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que... Voilà.
Il y aura peut-être un objet pour guérir les hypochondriaques.
Hein. Voilà. Pourquoi pas?
Je pense qu'il y a un point qui est important, c'est la notion d'acceptabilité de l'usager. Où là, pour le moment, il faut arriver à ce que les personnes, lorsqu'il y aura la relation médecin-patient, donc là, c'est une histoire de confiance. D'accord? Et on peut pas imposer, le médecin ne peut pas imposer à un patient de porter un objet si ce dernier ne le souhaite pas. Donc là, c'est un dialogue. Après, que le sujet, je ne parle plus de patient cette fois-ci, mais que la personne ait envie de se brancher sur des objets, c'est son libre arbitre. Hein. Par contre, il y a un point moi, qui me paraît important, c'est la notion de fiabilité. Vous en avez parlé, madame, ça c'est quelque chose de très important. D'accord. Alors la fiabilité, ça c'est de la notion de métrologie, et il faut absolument, on va dire, à mon avis, normaliser, certifier ces objets-là. Et je pense que dans le milieu médical, on va vers cette notion de certification. C'est-à-dire, on ne va pas acheter un objet chez Decathlon, Go Sport, enfin, il faudrait que je cite toutes les marques, là, pour avoir ce type de, comment dirais-je, de service. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis ensuite, eh bien, il y a un travail amont que l'on fait avec le collègue Rodolphe et que l'on fait à travers, comme tu as cité, Laetitia, le travail que l'on fait à l'université, c'est la notion de fiabilité, au sens où la vérification, parce que un objet connecté, c'est un capteur, comme tu l'as bien souligné, c'est un capteur. Il mesure. Il y a une donnée d'entrée, il y a une donnée de sortie. Cette donnée de sortie, j'en fais quoi? Comment je l'analyse? Comment je l'interprète? Et là, il y a un gros travail scientifique à mener. Alors, bien sûr, il y a des cohortes, on va dire, de données. On fait des algorithmes derrière pour travailler cette donnée, ces données. Et puis, par corrélation, sur une grande population, on dit, bien, si vous avez... c'est un peu comme le médecin. Si vous avez... 40 degrés de fièvre ou 39 degrés de fièvre, vous êtes malade. Oui, mais vous avez quoi? Vous êtes, c'est une angine, c'est une grippe, c'est quoi? D'accord. Donc à un moment donné, il va falloir aussi se poser cette question-là. Et je crois qu'aujourd'hui, je pense que là, il y a la communauté de médecins se pose ce genre de questions. Et je crois que là, il y a un gros travail à faire scientifique préalable. Donc, qui je pense sur les objets e-santé. Qui seront amenés à faire la relation médecin-patient, je crois que, enfin, j'espère, hein, ça sera fait. Dans le côté sport, on n'en a pas du tout parlé parce que ce n'était pas le sujet, mais par contre, dans le côté activité sportive, la mesure de l'activité sportive, où là, il y a effectivement un fort questionnement à avoir sur aujourd'hui les interprétations, l'interprétation qui est faite de la grandeur mesurée. Et là, je crois qu'il y a un gros, gros travail. À la fois donc dans nos laboratoires, bien sûr, mais aussi de l'usager. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet usager doit être, entre guillemets, éduqué, doit être averti, hein, un consommateur éclairé par rapport à ces objets-là. D'accord.
Qui va l'avertir?
Ce genre de conférence. Je sais bien.
Enregistré.
Parce que nous voyons, si vous voulez, aujourd'hui dans nos laboratoires, on a eu l'occasion de voir des personnes, la marche nordique est très, très à la mode, où on voit les individus, mais bon, d'un certain âge, hein, je peux même m'associer à ces personnes-là, eh bien, avoir un engagement physique très, très important, hein, et sans véritablement se poser véritablement la question de l'adéquation de leur capacité physique par rapport à ce type d'activité. Certes, ils ont un bracelet, donc ça donne un chiffre, parce que, bon, interpréter, je ne sais pas comment, et il faut faire mieux que le voisin, mieux que le copain. Et on les voit marcher de manière très forte, à la limite peut-être du raisonnable par rapport à leur capacité physique. Et là, il y a véritablement un enjeu sociétal qui me paraît fondamental. Donc ça, c'est très, très important.
Je voulais aussi revenir sur un point du coup que vous avez évoqué, c'est la notion d'acceptabilité. Parce que là, on est dans une situation un petit peu en grand écart avec la notion d'intrusion. Donc en fait, on tolère très très bien et on se mettrait plein de capteurs si on le fait soi-même et si les données restent personnelles. Par contre, transmettre au médecin, c'est loin d'être gagné. Donc, par exemple, il y a un projet que j'ai évoqué, sur lequel j'ai travaillé. Donc, c'était pour aider les personnes atteintes de pathologies cardiaques à faire de l'activité physique. Et quand j'ai évoqué cette activité, enfin, ce projet-là autour de moi, on m'a dit « Ouais, bah, tu fliques les gens, en fait. » Et donc, la réaction m'a paru un peu radicale, en disant bah, « Non, en fait, on donne un support pour la pratique, mais on ne flique pas du tout. » Alors que là, l'objectif, parce qu'en fait, à l'heure actuelle, pour certaines pathologies cardiaques, les gens téléphonent tous les lundis pour dire, au fait, est-ce que vous avez fait de l'activité? Est-ce que vous êtes allé marcher? Est-ce que vous êtes allé, comme votre programme le recommande? Donc, quelque part, ça permet d'alléger certaines prises en charge. Mais là, on disait, bah ouais, tu fliques, parce qu'on met des capteurs, on transmet les informations et tu dis si c'est bien ou si c'est pas bien. Donc voilà, c'est pas encore complètement gagné non plus dans la diffusion de ce type d'objet à des fins de santé.
Et
Alors, pour, étant porteur d'un défibrillateur, etc., je pense que je peux témoigner de ce genre d'expérience un peu extrême, parce que la différence qu'il y a avec un capteur, c'est qu'il y a une dimension effective, c'est-à-dire que... Voilà. Et, mais donc, ça amène quelque chose qui est très anxiogène, mais ça doit être pareil pour les pacemakers. L'accompagnement est hyper important. Et pour les porteurs de défibrillateurs ou de pacemakers, dès l'implémentation, même avant, il y a un accompagnement psychologique, une information très forte. Enfin, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent témoigner de ça. Et ça, c'est hyper important dès qu'on rentre dans des pathologies. Quand on est sur des choses où on a une montre, etc., qui nous accompagne, en fait, avec des chiffres qu'on ne sait pas trop interpréter. Après, il y a le problème que soulevait madame, où les gens vont s'inquiéter de la moindre... Et on a eu le cas d'une personne de la maison où en fait... d'une anomalie détectée par une montre ou un objet connecté, ça lui a pris l'année, pour le coup, dans le circuit médical. Le défibrillateur, enfin, le défibrillateur, l'objet, la montre, avait détecté une anomalie qui était réelle, hein, et il a mis le bras dans les consultations, etc. Et à la fin, on allait l'opérer. Et pour en septembre, ça devait être début d'année, en septembre, on lui a dit bah, non, finalement, il n'y a rien. Donc, en fait, ça a été très anxiogène partant d'un objet connecté. Mais dans la situation vraiment des gens qui ont des objets implantés pour des raisons, pour des pathologies diverses, la question de l'accompagnement, une fois l'an, deux fois l'an, et pour moi, l'objet, la transmission directe, ne se substitue pas au coup de téléphone. Alors, peut-être que c'est une question de rythme, peut-être qu'il n'appellera pas une fois par semaine, mais de voir son médecin... ou le cardiologue ou la personne qui le suit de temps en temps, enfin au rythme que nécessite la pathologie, c'est hyper important. Parce que la question du traçage, c'est moi par exemple quand je fais des consultations, heure par heure, on peut savoir, c'est une réalité quand même. Oui. Et là, on regarde ensemble et là on dit tiens, il y a eu quelque chose ce mardi tant à 18h30. Alors on regarde mon agenda et je dis ah oui, j'ai failli avoir un accident. Enfin, c'est pas marqué sur mon agenda, mais je m'en souviens dans le contexte, etc. Donc, il y a quand même derrière... Alors là, on est dans des situations médicalisées, c'est très... Mais derrière cette question de ma vie cardiaque est enregistrée seconde par seconde, bon, ben, ça reste entre nous, mais c'est quand même... Il y a quand même des conséquences qui sont pas... Alors moi, j'ai un regard un peu critique, et puis... voilà, je regarde ça de manière un peu distanciée, mais je comprends que ça soit très stressant pour beaucoup de personnes.
Mais là, encore une fois, enfin, c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, il faut que ça vienne en complément d'une prise en charge et pas au détriment d'une prise en charge. Et puis là aussi, la question de la forme de la réponse, le niveau, etc. Ouais.
Oui, voilà. Ça n'exonère pas de l'interface. Voilà.
Tout à fait d'accord.
Moi, juste peut-être un petit commentaire par rapport à ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a finalement deux cas de figure. Quoi. Il y a le cas des objets connectés pour la santé, et le cas des objets connectés, plutôt bien-être. Quoi. Et clairement, derrière, il y a la question de la fiabilité nécessaire dans les deux cas de figure. Et ensuite, la question de l'accompagnement des résultats produits par ces objets dans ces deux contextes-là. Quoi. Et c'est clair que si on est, à mon avis, dans le contexte du bien-être, on est peut-être plus aussi, finalement, avec une philosophie un peu d'éducation thérapeutique. Et on n'a pas besoin d'avoir des informations super précises, mais je sais pas, trois couleurs, vert, orange, rouge, peut-être que ça suffit. Voilà, pour schématiser.
Oui, oui, sauf que dans le contexte médicalisé de la santé, si tu veux, tu es très encadré. Dans l'autre, tu peux mettre le doigt dans, y compris comme l'exemple que je prenais, j'avais mis dans le circuit pour une raison qui est un peu fallacieuse dès le départ.
Qui est-ce qui souhaite intervenir, monsieur? Je crois, un moment. Oui. Dit là à propos de la fiabilité, je vais vous prendre un exemple très simple pour être randonneur. Voilà. Bien, moi, je n'en ai pas. Je ne sais. Bon, mais il y a toujours dans le groupe au moins trois personnes qui ont un appareil qui mesure. Ils sont jamais d'accord. Ils nous donnent toujours des résultats différents, etc. Alors, je me pose la question de la fiabilité. C'est quand même... Bon, si on en est sur le bien-être, c'est pas trop important hein, de savoir. Mais si on en est sur l'autre registre que monsieur vient d'évoquer, c'est autre chose quand même. Alors, quelles sont les réponses des ingénieurs, des scientifiques? Je ne sais pas. Moi. Hein?
En fait, c'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le compromis dans le choix des capteurs. C'est évident que quand on va avoir un objectif bien-être, donc d'automesure, l'objectif de la société, c'est quand même malgré tout de gagner de l'argent. Donc ils ne vont pas forcément choisir les capteurs qui vont être les de meilleure qualité. Donc ils vont trouver un compromis entre bah là, l'indication fournie doit être satisfaisante, mais du coup la gamme de mesure et la précision de la mesure bah, va forcément s'en ressentir. Alors que, et c'est là la question qui va se poser et c'est là un problème qui va émerger, c'est sur bah, ceux qui vont être utilisés dans le domaine de la santé, avec les transmissions qui vont être faites aux médecins, sur bah, la certification, comme l'a évoqué Patrick tout à l'heure, en disant bah, comment être sûr que ce qui est utilisé est de bonne qualité. Alors après, il y a énormément de normes qui ont été conçues pour tous les objets qui sont utilisés, ou les systèmes de mesure, dans le milieu médicalisé. Donc là, il y a vraiment des normes qui sont vraiment assez strictes. Mais après, là, on va voir émerger de nouveaux objets, des nouvelles mesures. Donc il va y avoir forcément une phase de mise en œuvre pour dire, bah, tiens, qu'est-ce que je tolère comme précision? Quel est le cahier des charges que j'impose à ces objets? Et là, effectivement, il y a du travail à faire. Voilà.
On peut imaginer ce qui existe déjà, le service des instruments de mesure.
C'est ça, tout à fait.
En gros, c'est ce vers quoi on tend.
Donc, voilà. Il y a des normes techniques, comme Rodolphe a pu l'exposer ce matin, mais il y aura des normes d'usage, on va dire, une certification telle qu'aujourd'hui, vous regardez, vous achetez un appareil électroménager, etc., certification européenne, c'est d'autorisation de mise sur le marché. Vous achetez un vélo, c'est pareil, vous achetez un casque, il y a une certification, eh bien, on aura le même label.
Et les fameux objets, les fameux dispositifs médicaux, on entend énormément de publicité depuis quelque temps où ceci est un dispositif médical, ont en fait des conditions en plus d'utilisation différentes. Et donc un cahier de charge qui est généralement un petit peu plus strict, parce qu'on sait qu'on va toucher à l'humain. Donc, mais encore une fois, il s'agit de nouveaux objets, donc il va falloir en fait définir ben, la tolérance.
Merci, je t'en prie. Peut-être un tout petit élément complémentaire, c'est que derrière ces fameux objets connectés, pour moi, il y a trois parties. Il y a une partie capteur qui vient effectivement faire la mesure, qui peut avoir sa propre fiabilité, ses propres performances. Ensuite, il y a une deuxième étape qui est la partie souvent transmission de la donnée, qui peut aussi avoir ses propres performances, sa propre précision. Et enfin, derrière, toute la partie traitement de cette donnée, analyse, exploitation, interprétation. Et finalement, quand on est utilisateur d'un tel objet, eh bien, on ne voit que le résultat final. Et dans la plupart des cas, si c'est du bien-être, c'est nous qui interprétons. Mais derrière, il y a toute une chaîne préalable, finalement, avec une boîte noire, quoi. Et en fonction de l'usage, on va chercher à avoir une précision, une fiabilité différente, quoi. Mais qui s'appuie sur tout ça, qui finalement est extrêmement complexe. Et comme usager, ma foi, on n'y a pas accès. Soit on n'a pas parce qu'on n'a pas les compétences, soit de toute façon parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la boîte, entre guillemets. C'est une boîte noire, quoi.
Rodolphe, pour ces précisions. Une dernière question ou remarque ou commentaire? Parce que là, donc, on fait une petite pause. Alors, une petite pause si vous souhaitez.
Oui.
Un café, parfait.
Merci beaucoup.
Et on peut continuer la discussion. Hein, il n'y a pas de... Merci.